I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
C'est la Fashion Week.
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those? Dior clothes.
It's fashion art.
It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know?
That's all.
Hello Thomas.
Hello.
Bonjour.
Ça va?
Ben, très bien.
On est ravis de te recevoir au podcast.
Mais moi de même, je suis très heureux d'être ici.
Trop cool.
Un plaisir.
Je remets une petite couche. Pour ceux qui ne sauraient pas, le podcast est en vidéo sur YouTube et sur Spotify. Donc si vous voulez voir la vidéo, vous savez où vous rendre. Voilà, c'était le petit instant.
Ça faisait longtemps.
Ouais, ça faisait longtemps, mais vas-y, on est comme ça. Toi, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous dire.
Je sais pas.
Cool. Ouais, si,
on va voir.
Bon, comme tu es un mauvais élève qui n'a jamais écouté un épisode,
mais par bribes là, sur Insta et tout, ouais, je regarde quand même.
Okay. C'est nouvelle gen, c'est
mais
Instagram.
Mais je pensais qu'il y avait effectivement que vous me posiez des questions pour.
On va te poser des questions.
Ça va alors.
T'inquiète pas.
Tu vas te guider.
Ouais, on va te guider, on va te tenir la main. Non, en règle générale, tout le temps, on commence avec un peu que tu nous racontes d'où tu viens, où t'as grandi déjà.
Ok.
Voilà, on va commencer par là. Et comment t'étais à l'école, le collège? Comme ça, on va commencer par là. Où est-ce que t'as grandi?
Ok, alors c'est parti.
Let's go.
Let's go. Alors, moi, la particularité, c'est que je suis né dans le Nord. Je suis donc ch'timi, comme Danny Boone.
Ok.
Parce qu'en fait, mon père, c'était son premier poste à l'époque de professeur de lettres. Dans le Nord, et mes parents sont installés dans le Nord de la France en communauté, pour l'anecdote. Donc,
c'est-à-dire
qu'ils vivaient avec d'autres familles.
C'était quelle époque ça?
C'est la fin, oui, je suis pas tout jeune, c'est la fin des années 70.
Mais quoi, une communauté genre hippie ou un truc comme ça?
Ouais, c'est ça. Hippie, sabots, fromage de chèvre, métier à tisser, la totale.
Ouais, c'est pour ça que je demande de remplacer l'époque, parce que je me doutais qu'il y avait un petit lien.
Ouais, c'est ça.
68 ans un peu.
Et donc, j'étais conçu dans cet environnement-là. Mais je n'y ai pas vécu très longtemps, puisqu'ensuite ils sont partis en Bretagne, étant eux originaires de Rennes. Et donc je suis retourné dans ce coin-là, on s'est installé à la campagne. Et du coup, moi j'ai été scolarisé au collège de Guémené-Pinfo.
Putain, c'est un code wiki.
Donc voilà, au collège Bellevue de Guémené-Pinfo.
Tes deux parents étaient profs, hein? C'est ça.
Non, mon père était prof donc de français et ma mère était éducatrice spécialisée.
Okay.
C'est-à-dire qu'elle s'occupait en fait d'enfants soit en difficulté scolaire, soit
un handicap.
Avec des handicaps plus ou moins importants.
C'est dur comme taf.
Mais tous les deux travaillaient, et donc du coup, j'étais assez peu à la maison, donc j'étais assez libre. Et
ça allait avec l'époque aussi, j'imagine. Car s'ils étaient dans une communauté un peu hippie.
Là, c'est donc on est plus dans les années 80. Donc là, on était un peu sorti quand même de ce mood.
Ça commence à sortir le martinet ou pas?
Il n'y a pas eu de martinet. Non, ils n'étaient pas autoritaires. Par contre, ils tenaient à ce que, enfin, en l'occurrence, notamment mon père, que je sois plutôt bon élève à l'école. Ce que j'ai essayé de faire.
Que t'as réussi ou pas?
Plutôt, oui, j'ai joué le jeu. J'avais pas, en fait, une grande passion pour l'école. Mais assez vite, je pense que j'ai eu l'intuition de me dire ça pourrait servir à quelque chose.
Ok.
J'étais plutôt bon à l'école, avec l'idée assez vite quand même que ça me permettrait de quitter la campagne, de quitter la Bretagne pour peut-être des horizons plus excitants.
C'est un passeport, quoi.
Donc là, on est dans les années 80. Moi, c'est vrai que je suis donc dans un collège où il y a quand même majoritairement plutôt classe prolétaires, pas mal de un petit peu de bourgeoisie, mais pas beaucoup. Mais en l'occurrence, les bourgeois portent du Chevignon, des Nike Agassi et tout ça. Moi, je n'ai pas accès à ça. En plus, mes parents sont plutôt anti-système, anti-capitalisme, tout ça. Donc, du coup,
moi, t'étais pas en Nike, quoi.
Comment ?
T'étais pas en Nike.
Moi, je n'avais pas accès à ça, en tout cas au début, et c'était plutôt une souffrance parce que du coup, je me sentais un peu en marge. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai quand même imposé le fait d'avoir de l'argent de poche. Et avec cet argent de poche, j'ai trouvé des magouilles. Donc, par exemple, j'allais m'acheter des fringues de marque, mais en solde. À pas cher, alors souvent les trucs plus ou moins réussis, mais enfin en tout cas c'était de la marque. Ou alors, à un moment donné, l'astuce c'était d'acheter des fringues qui n'étaient pas de marque justement, et de récupérer les étiquettes sur
les,
les autres produits que j'avais achetés en solde et que je les mettais sur ceux qui n'étaient pas de marque. Il y a beaucoup qui l'ont fait.
Très astucieux ça.
Ok. Donc voilà, donc j'étais au collège Bellevue, ça se passait plutôt pas mal, et puis à un moment donné, s'est posé la question d'aller soit à l'époque, donc c'était soit A3, art plastique, soit F12. Et A3 c'était à Redon, donc c'était encore un petit bled. Il s'avère que mon père enseignait à Redon, ou sinon c'était F12, et dans ce cas là c'était à Nantes.
F12 c'est quoi?
F12 c'était art appliqué, mais c'était dans un lycée technique quand même, donc il fallait être bon en maths notamment. Et donc mon père étant enseignant au collège à Redon, et la perspective d'aller dans une grande ville, donc à Nantes, je me suis dit, ah non, faut que je tente F12, et je suis rentré à F12. Okay. Donc je suis arrivé à l'internat, en F12, au lycée Livette, à Nantes. Et donc là, c'est une période d'émancipation. Alors je suis à l'internat, donc j'ai le droit à la totale, les virgules dans les toilettes, le bizutage, les lits en portefeuille pour ceux qui connaissent, voilà, le seau d'eau aussi dans les toilettes quand on est assis sur le trône, ce genre de truc.
Des grands classiques. Voilà. On est encore dans du grand classique.
Donc c'est une période formatrice, on va dire. Et puis,
t'es quoi comme jeune homme? T'es un garçon plutôt réservé? T'es un peu bout en train? C'est quoi la personnalité?
Je dirais que je suis donc plutôt un bon élève, mais mes potes sont plutôt ceux avec qui on peut se marrer, quoi.
Ok.
Donc, c'est dans ce sens que je dis je joue le jeu. C'est-à-dire, je fais le job, mais je vais traîner plutôt avec les gens cool, quoi.
Ouais, ok.
À Nantes, c'est ce qui se passe. On avait un groupe qui s'appelait, genre, on était les Gitans. Bon, on faisait toutes sortes de conneries, hein, appelons le mot. Voilà, on traînait pas mal, on faisait la fête, sans rentrer dans le détail, mais bon, j'ai quand même eu
ton
diplôme. On est plus au bac, là, on est au lycée, donc c'est le bac.
Oui, le bac, oui, c'est le bac du lycée. Ouais.
Donc j'obtiens le bac j'ai 18 ans, et ensuite j'ai envie d'aller à Paris, quoi. Assez logiquement. Donc
tu te plais dans le truc d'art plastique, tout ça, genre
comment
au-delà de l'envie d'aller à Paris, ce lycée que tu fais en art appliqué.
F12, ouais, art appliqué.
Tu te trouves dedans?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est très complet, c'est-à-dire il y a à la fois une formation technique, donc c'est vraiment pour faire des métiers. On nous forme en fait pour être soit architecte, soit scénographe, soit directeur artistique. Enfin, à l'époque, c'est plus graphiste, on va dire, ce genre de choses. Donc ça rassure, je pense, un peu mes parents. Ça me rassure aussi pour la suite. Mais moi, j'ai déjà à ce moment-là vraiment des velléités d'artiste, plasticien. Et en fait, je dessine depuis que je suis tout petit, vraiment tout le temps. Je suis plutôt quelqu'un d'assez hyperactif. Je suis tout le temps en train de faire mille choses. J'ai fait 50 sports différents. J'avais tout le temps besoin d'être, ouais, de bouger. De, alors, je disais que je voulais être cascadeur quand j'étais gamin, donc et c'était, je le pensais plus ou moins quand même assez sérieusement, hein, c'est-à-dire, voilà, je me jetais à peu près partout. J'étais assez bon, par exemple, dans les roulades dans les escaliers. Ça, c'est quelque chose que je maîtrisais assez bien.
Avec rembourrage et tout,
juste j'avais trouvé, tu vois, la manière de rouler sans se faire mal dans les escaliers.
Parcours avant l'heure, quoi.
Je sautais par les fenêtres, alors pas au cinquième, quatrième, mais je faisais premier, deuxième, et j'adorais parce que donc on avait une maison où il y avait un étage à la campagne comme ça, et j'avais toujours besoin d'un public. Donc mes parents, ils en avaient marre, hein, ils en pouvaient plus. Mais alors dès qu'il y avait des amis qui venaient,
c'était l'attraction.
Souvent, au déjeuner, par exemple le dimanche, on arrive au café, machin, puis à un moment les fenêtres s'ouvraient. Et là je faisais bon allez ciao et hop, et je sautais par la fenêtre.
Et
les copains ils étaient là genre waouh, il va bien votre fils, ça, bon, ce genre de truc que j'aimais beaucoup. Mais j'avais ce truc de vouloir être cascadeur. Je faisais beaucoup de sport tout le temps, en plus on était à 7 km de on va dire du village le plus proche, donc j'y allais en vélo, par exemple des fois je partais en vélo.
Ça c'est vraiment les histoires des anciens. Je partais à l'école à vélo.
Le mood du truc, je partais en vélo, je faisais 8 km en vélo pour aller faire du handball. Ouais. Et une fois, je me souviens très bien, par exemple, au bout d'un kilomètre, en fait, je me suis cassé la gueule en vélo. J'ai fait une roulade de judo, parce que je faisais du judo aussi à l'époque. Je me suis
roulade de cascadeur.
On maîtrise la roulade.
Les deux mains à l'avant en faisant ma roulade, comme ça. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'aurais pu rentrer, c'était un kilomètre chez moi. Non, je vais au handball.
Ah oui, c'est vrai, évidemment, qu'en plus, on n'a pas trop
besoin
de savoir.
J'arrive là-bas, et puis évidemment, je vais dans les buts, et puis là, je me prends une balle dans la tête. Enfin, voilà, tout était comme ça. Oui. Et j'étais dans l'énergie, tout ça. et je pense que j'avais besoin, voilà, de faire tout le temps des choses, d'être dans l'activité et tout. Et je pense que cette énergie-là, elle est restée. Elle s'est déplacée vers d'autres choses, mais c'est un moteur, en fait. Mmh. C'est une manière d'approcher aussi la création, d'approcher les relations aussi avec les autres, l'engagement physique dans tout ce qu'on fait, en fait. Mais alors, la question, c'était juste avant?
Non, c'était où est-ce que tu t'es retrouvé dans les arts, tout
ouais,
ça.
Ouais, dans les arts.
Ouais, donc,
et en fait, la question se pose d'aller. Parce que je parlais un peu de ce côté hyperactif, et en fait, donc, par exemple, quand je disais à l'école, je jouais le jeu et tout ça, je comprenais, j'écoutais, je notais, je prenais ma petite note, cool, ça va super. Mais par exemple, pendant les cours, je dessinais tout le temps.
Ouais.
Donc sur tous les cahiers, il y avait des dessins en permanence, parfois des caricatures des profs, alors ce qu'ils me faisaient, j'avais des remarques et tout, mais j'étais tout le temps en train de dessiner. Donc assez logiquement, le dessin s'est un peu imposé comme ça, comme aussi peut-être une manière aussi, moi, peut-être des parents de dire peut-être ça te calme, machin. Donc du coup, je suis parti sur le dessin, et quand je suis arrivé en F12 à Nantes, assez rapidement aussi, je suis passé à la peinture, donc peinture à l'huile. Plutôt hyper réaliste. J'avais des influences comme des gens comme à l'époque Fischl, David Sall, Schnabel, des gens comme ça. Et un peu d'expressionnisme allemand aussi, enfin c'était assez coloré, assez et donc j'ai fait mes premières expositions à Nantes dans des bars au début, j'avais genre 18 ans, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, à la fin des études, F12, se posait la question de la suite. Donc moi, j'ai évidemment, logiquement, je me suis dit, je vais aller aux Beaux-Arts. Parce que dans ma tête, j'étais un artiste, tu vois, dans ma campagne, assez logiquement, dans cet environnement-là, tout le monde me disait que j'étais un artiste. Donc dans ma tête, j'étais un artiste et je faisais de la peinture. Il y avait une espèce de logique, tu vois. Donc, à la fin de F12, donc je tente les Beaux-Arts à Paris. Et en fait, c'est la douche froide. J'ai 18 ans, hein. J'arrive là-bas, je présente mon dossier, j'avais des photos de mon travail. Et en fait, je suis arrivé et j'étais très, très naïf. Et autour de moi, je voyais des gens qui arrivaient avec des crêtes iroquois, avec des toiles de 4 mètres. ou qui faisaient des performances complètement dingues, tout ça. Et en fait, je me rends compte que je suis pas prêt, quoi. Tu vois, je suis green, quoi. Et donc, et j'ai le droit à une scène. Donc, j'arrive devant ce jury, dont d'ailleurs il y avait des professeurs. Qui sont des artistes très reconnus et que j'admire, dont une artiste, on peut dire son nom, mais c'était Annette Messager. Mm-hmm. Il y avait Annette Messager et Christian Boltanski, notamment dans le jury. Et donc, je fais ma présentation avec toute ma jeunesse, toute ma naïveté. Alors, l'art, c'est le geste, l'art, c'est la liberté. Machin, et je parle tout seul, quoi, tu vois. Et à un moment donné, bah c'est ça, et à un moment donné, j'entends vraiment des gloussements qui deviennent des rires.
Oh ouais. Mon Dieu, wow, c'est dur ça.
Et là, en fait, je prends conscience.
Que t'es ridicule, quoi.
Ouais, qu'en fait. Non, mais
c'est
que,
sympa.
Qu'en fait,
non, mais
non, mais
enfin,
qu'en
non,
fait,
sans le savoir, c'est parce que t'as
non,
pas la
rêve. Oui, ouais, mais c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Mais on a tous des moments dans
ah
la
ouais,
vie.
On les a tous eu, ces moments de solitude.
Et je. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dur. Quand
ça
quand t'arrives avec tout cet enthousiasme, toute cette voilà et Boltanski intervient, donc c'est Annette qui rigole et Boltanski se lève et dit non mais t'inquiète, ça lui arrive souvent, machin, il essaie de relativiser le truc. Mais moi, tu vois, je sors de ça, je suis totalement anéanti, je me dis mais en fait je suis complètement à côté de la plaque, quoi, tu vois. Et je me souviens, donc je quitte les Beaux-Arts. Alors j'étais venu de Rennes, hein, j'avais fait mes. À l'époque, c'était 2h30 de train. Bref, donc je quitte vraiment désemparé. Et là, c'est. Je raconte cette anecdote parce que il y a des moments comme ça dans la vie qui sont importants, c'est-à-dire. Je quitte les Beaux-Arts, donc je suis rue Bonaparte avec mon carton sous le bras, vraiment tout seul à Paris. Je me dis, bon, je vais retourner dans ma campagne, je vais aller bosser à la poste, quoi. Tu vois, on oublie, quoi. Mmh. Et là, je me mets dans le petit jardin qui est à côté de Saint-Germain. Là, vous voyez ce petit jardin,
très bien.
Là, tout petit, et je me mets sur un banc. Je crois qu'il faisait assez beau. Et là, il y a un vieux monsieur qui est sur un banc à côté, comme ça. Et il m'observe, et puis à un moment donné, il vient me voir et il me fait. Il me demande ce qu'il y a, et donc je lui raconte ce qui s'est passé. Et il me dit faites pas attention à ça, croyez en vous, fiez-vous à votre intuition, vous allez voir, tout va s'éclairer pour vous. Et le mec, je ne sais pas qui c'était, je ne l'ai jamais revu, tout ça, mais. C'est une sorte de guide, quoi.
Un oracle, c'est trop
bien. Et ça m'a complètement redonné l'enthousiasme. Et voilà, je suis rentré en train. Alors pour l'anecdote, dans le train, me suis retrouvé enfermé dans les toilettes. c'était pas la bonne semaine. Ouais. Je me suis retrouvé enfermé dans les toilettes, avec mes affaires, avec tous mes dessins dans le wagon à l'époque. Et il y avait des militaires qui était dans le wagon, je me suis dit j'espère que personne va me piquer des trucs, tu vois, et j'étais dans les toilettes étaient tout petits comme ça, et à un moment donné, donc j'entends des gens qui passent, et je dis ouais, venez essayer d'ouvrir la porte, tout, et donc il y a quelqu'un qui essaye, ça marche pas et tout, et donc à un moment donné il y a un militaire qui déboule, qui devait faire 100 kilos quoi,
il tire dedans
non, et il me dit vas-y écarte-toi, je vais défoncer la porte. Sauf qu'en fait, il y avait trop de
ténèbres,
quoi.
Pas,
Et je me dis, mais s'il expose la porte, je meurs.
Je
me la
prends, quoi.
Et donc, en fait, je me mets debout sur les toilettes et je bloque la porte avec mes jambes, comme ça, pour empêcher qu'il ouvre. Mmh. Donc, au final, on est arrivé à Rennes. Tout le monde est descendu du train. Il y avait un espèce de silence terrible. Je suis dans les toilettes. Je viens de me faire recaler des Beaux-Arts avec Annette Messager qui se fout de ma gueule. Et je suis tout seul dans un train vide. Et là, j'entends le loquet des toilettes qui s'ouvre. Et c'était la femme de ménage qui rentre. Bonjour, monsieur.
Wow.
Voilà ce que c'est que
la vraie vie.
Les débuts de la vie d'artiste.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Tu rebondis comment? C'est quoi?
Et non, mais alors tout ça pour dire que ce qui est intéressant, je raconte des anecdotes comme ça, mais ce qui est important, en fait, c'est d'abord de croire sa bonne étoile. Parce qu'il y a des moments, effectivement, on vous envoie des scuds comme ça qui sont un peu difficiles à avaler. Mais il y a d'autres moments comme ça, il y a des moments magiques en fait, qui sont des rencontres et qui vous, voilà, qui vous rappellent que bah, ce monsieur avait raison. C'est, tu traces ta route, quoi, tu traces ta voie et pas faire attention aux gens qui te critiquent ou qui disent du mal de toi. C'est... Voilà, et donc bah, la suite, elle est intéressante. C'est-à-dire que je surcalais des Beaux-Arts, je surcalais d'Olivier de Serres, je surcalais de Dupéret. En gros, aucune école ne me veut, quoi.
Parisienne, en tout cas.
À Paris. Et moi, c'était mon rêve de venir à Paris, tout ça. Aucune école. Et puis, les Arts Déco, je suis retenu. Donc, il y a le grand concours aux Arts Déco. Donc, c'est à Porte de Champéret, je crois, je sais pas combien on est. Plus de 1000, quoi.
Ouais.
Dans une espèce d'immense salle. Et donc, il y a dessin, puis sculpture. Donc là, tout à coup, t'as... Alors, c'est très drôle parce qu'on est dans une salle comme ça avec 1000 personnes.
Ouais.
C'est vraiment, c'est immense. Hein. C'est,
ouais, pour rentrer 1000 personnes,
c'est un hall comme ça, ouais, énorme. Et tout le monde a des grandes tables comme ça devant. Et donc, on fait au début, on arrive avec son matériel et tout ça. Et là, il y a nu, dessin de nu. Et là, tout à coup, t'as 50 personnes à poil qui rentrent dans l'espace et qui se mettent devant sur les tables. Et toutes sortes de physiques. Et donc, on dessine. Et ensuite, on doit adapter en sculpture.
Okay.
Et alors, par exemple, moi, je fais mon dessin. Je crois que j'ai plutôt une bonne note en dessin. Puis, on passe à la sculpture. Et en fait, j'avais pas de matériel. J'avais pas de terre.
Mm-hmm.
Donc, je me dis, comment je vais faire et tout. Et en fait, je prends du papier. Je prends des bouts de scotch. Et donc, je fais une espèce de, tu vois, de corps comme ça, avec du papier en bouchon, comme ça, avec du scotch autour, tu vois, que je fixe. Je le peins en noir et j'improvise, je fais le corps, les volumes du corps, tu vois, sur le fond noir, comme ça. Et en fait, en dessin, j'ai une bonne note, mais en sculpture, j'ai une note genre 18, quoi. Donc,
ouais,
je passe le premier step. Donc, je suis retenu. Et ensuite, il y a l'oral. Et l'oral, là, je me retrouve donc devant le jury. Donc, ça se passe un mois plus tard ou un truc comme ça. Et je me retrouve dans une petite salle avec 4-5 personnes. Et en fait, ils sont tous dans un mood où il y en a un qui, en gros, fait croire qu'il est le directeur de l'école, hein, qu'il a un gros cigare. Je crois qu'à l'époque, on peut encore fumer. Alors, je sais pas combien de personnes ils avaient vues avant, tu vois, mais ils étaient un peu dans un mood...
détente, quoi.
Où, ils me prenaient pas vraiment au sérieux, tu vois. Donc, moi, j'ai présenté un projet, je crois, de restaurant autour du travail d'Alechinsky. Alors déjà, le truc... bon. Compliqué. Passons. Et je présente ce travail et vraiment j'ai des retours un peu blasés, quoi, tu vois, c'est genre ouais, moi je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Richard, ouais, enfin vraiment une ambiance, je me dis ouais, ok, c'est mort, quoi, ça va pas le faire. Et puis avec ce gars là qui fait genre alors, monsieur le directeur, donc il y en a un vraiment qui joue le directeur. Sauf que moi, j'avais cru comprendre que c'était à l'époque Richard Peduzzi. Et physiquement, je trouvais qu'il ressemblait pas forcément à Richard Peduzzi, tu vois. Je me dis, ils sont en train de se foutre de ma gueule.
Disons-le
clairement, ils se foutent de ma gueule. Et là, non mais c'est là que la vie est quand même incroyable. La porte s'ouvre et Richard Peduzzi rentre.
Ok.
Ok. Le vrai directeur.
Le vrai directeur. Donc là, tout le monde fait genre. Changement de ok, et là Peduzzi arrive, il prend le dossier comme ça, donc sans, il dit pas grand chose et il fait genre alors vous en étiez où tout ça, et donc le prof, le faux directeur dit oui alors voilà, on trouvait que c'était un petit peu c'est pas très cohérent, un peu ouais, on n'est pas sûr tout ça, bon enfin bon. Peduzzi dit rien, il tourne les pages. Blanc, blanc, silence de mort, blanc, blanc. Il ferme le truc, il fait genre, bah moi je trouve ça excellent.
Boum.
Bam. Et là tu te dis, ok, ok les gars, je vous ai bien niqué.
Mais c'est quoi cette histoire de faux directeur du coup? Pourquoi?
Bah, je sais pas, je pense que les gars, ils voient 50 personnes dans la journée, à la fin, ils sont en burn-out, ils se disent, bon tiens, on va se faire un délire. Et c'est ça. Et donc, résultat, j'ai été pris aux Arts Déco.
Ouais, trop bien.
À 18 ans et demi, quoi.
Ouais.
Tu vois, donc j'arrive, je déboule à Paris, et donc j'ai fait 5 ans aux Arts Déco. Et ça s'est plutôt très bien passé.
Ouais, t'as aimé l'expérience.
Ouais, ouais, bah là, ce qui est en fait là, ce qui est vachement bien avec les arts déco, c'est que tu arrives avec justement des a priori, des désirs, des projections de carrière, tout ça. Et en fait, tu découvres vraiment une école où tu peux apprendre de tout. Mmh. Vraiment de tout. Et donc moi, pas en première année. Première année, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de techniques. Mais dès la deuxième année, en fait, donc moi, je me suis spécialisé en images. T'as images ou espace. Donc moi, je me suis spécialisé images. Et dès la deuxième année, ce qui est intéressant, c'est que tu as donc les cours officiels, mais tu as des cours en plus, des options ouais. que tu prends. Et là, tu as vraiment un choix assez, assez incroyable. Donc moi, j'ai eu des cours d'histoire du rock,
ouais.
des cours de musicologie, mm-hmm. des cours de montage cinéma.
Ah ouais, c'est vaste.
Voilà, et donc vraiment une arborescence de photos, évidemment, enfin de plein de choses. Donc on peut apprendre énormément de choses, s'enrichir. Et je dirais que c'est ça que j'ai surtout que j'ai retenu de cette formation aux Arts Déco, c'est ce côté, cette espèce de grande curiosité ouais. Qu'il faut avoir dans tous les domaines de création pour tous les sujets. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'es en design qu'il faut que t'intéresser qu'au design, c'est pas parce que t'es en archi que tu fais que de l'archi. Mais vraiment, tu peux être en archi et être un passionné de cinéma ou de rock. Ah oui, j'avais histoire du rock aussi. Ouais. J'ai fait ésotérisme aussi. J'ai fait cours d'ésotérisme.
Ouais.
Parce que j'avais des lacunes, notamment en histoire religieuse et tout, je manquais de contenu de ce côté-là. Mmh. Donc du coup, tu t'enrichis énormément, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est génial.
Donc, c'est accès culture G aussi, en fait.
Ouais, c'est
enfin,
ça.
Exactement.
Accès art, mais culture G. Ouais, ouais. Quoi, ouais.
Et sciences humaines aussi, très important. Donc, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi après, par la suite, tu vois, que vraiment j'ai conservé, qui est omniprésent dans mon approche, dans la création en général.
Mais toi, tu construis ce socle-là avec une idée précise derrière la tête, t'avais une envie de carrière particulière.
Alors, j'ai pas le retour de toi.
Tu m'entends pas? Moi, je m'entends.
Ouais. Non.
Faut que t'aies un peu plus, alors.
Vas-y.
Tu m'entends, là?
Ouais.
Ok. Je te disais... Tu construis ce socle, du coup, avec une idée de carrière particulière. T'avais une envie spécifique ou pas du tout?
Alors, à ce moment-là, à ce moment-là, j'avoue que je suis assez... je découvre tellement de choses que c'est à la fois formidable et à la fois assez troublant, parce que moi je me souviens qu'en première année il y avait des cours de peinture, et quand le prof de peinture a dit qui veut être peintre plus tard, ou qui veut au sens artiste, moi j'ai
levé la main
direct, tu vois. Et puis finalement quelques années après j'ai découvert tellement de choses, et surtout j'ai découvert beaucoup d'artistes qui avaient fait la formation, qui étaient passés par les arts déco, que je connaissais pas, notamment toute la génération d'avant, donc à peu près 10 ans de plus, qui sont passés par les arts déco, qui sont Pierre Huyghe, Claude Kloski, Philippe Parreno, Xavier Veillant, il y a toute une génération, Dominique Gonzalez-Forster aussi, qui sont des artistes majeurs aujourd'hui, j'ai découvert que c'était des artistes qui étaient passés par les arts déco. Donc là, je me suis dit, ah,
moi aussi,
ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on peut faire une formation en direction artistique, communication visuelle ou image, et finalement être artiste plus tard. Je me suis dit, donc ça m'a un peu ouvert, tu vois, ce que c'était aussi que la définition même de l'artiste.
Ouais.
Donc dans ce sens-là, je me suis dit, parce qu'à un moment j'ai hésité, j'étais pas sûr, j'avais un peu une nostalgie de ma Bretagne et de mon atelier de peinture, tu vois, je me disais, ouais. Donc du coup, d'ailleurs, j'ai fait une année sabbatique après la première année. Je suis retourné un an à Rennes,
ouais.
où je travaillais à West France la nuit,
ouais.
et la journée, je peignais. Donc vraiment, ambiance vin rouge roulé. pour ceux qui connaissent Rennes, rue de la Soif, là, je sais plus comment elle s'appelle, la rue Sainte-Anne. Voilà, c'était un peu le retour aux sources. Et j'ai fait ça un an, puis après, je me suis dit, ben non, en fait, ça va pas le faire, quoi. Et donc je suis retourné après à Paris.
Mais pourquoi? Parce que ta première année, elle a été difficile d'être déraciné
J'arrive à 18 ans et demi à Paris avec un niveau, une exigence de l'école qui est important,
ouais.
Où il faut apprendre énormément de choses, où je connais pas grand monde. Ça a été un peu
c'est rude, hein.
Ça a été un peu chargé. Et donc j'ai eu besoin de, ouais, de revenir un an. Et puis en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que non, que c'était pas le bon choix. Donc je suis reparti de plus belle.
Ouais.
Et j'ai bien fait. Non, c'était.
Et à ton retour, tu t'épanouis un peu plus dans ta vie de parisien. C'est ça, j'allais te poser la question de savoir comment se sont passées ces années-là étudiantes à Paris, ouais.
Oh bah mes années parisiennes. Alors.
Les premières,
j'enlève une tenue. Les années parisiennes. Alors, ça se passe en plusieurs. Il y a beaucoup de choses à raconter. Hein. Alors, je commence par quoi ? Donc, je sors. Donc, je fais les Arts Déco. Ça se passe plutôt bien. Je sors des Arts Déco. On va dire que je suis plutôt un bon élève. Je m'installe en couple. J'ai un salaire dans une agence de graphisme, okay. L'atelier de création graphique, vraiment le truc, voilà, un atelier très institutionnel qui fait notamment la DA du Centre Pompidou, des choses comme ça. Avec un ancien professeur à moi qui s'appelle Pierre Bernard. Et en fait, au bout d'un an, je m'ennuie, en fait. Je me rends compte que c'est pas la vie que j'ai envie de mener.
Ah, on est loin de la vie d'artiste, là, pour le coup.
Ouais, alors, c'est-à-dire que j'avais peut-être besoin de me rassurer, trouver un confort de vie, tout ça. Puis en fait, assez vite, ça me correspondait pas. Donc du coup, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma nana.
Ah, t'as fait le combo. Allez.
Et à côté de ça, j'avais donc fait ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon mémoire de fin d'études, c'était le manuel de la photo ratée, qui est donc un projet en fait sur comment faire de bonnes photos ratées. Donc ça, c'est le travail que j'ai fait en fin d'année, en dernière année. Et il s'avère que donc j'avais une bonne note et que mes profs m'avaient dit tu devrais le publier. Et donc j'avais des connexions avec un imprimeur. Et donc je contacte cet imprimeur, je lui présente le projet qui était donc déjà mis en page et tout, et il me dit j'adore, moi je prends en charge l'impression du truc.
Okay.
Donc je ne paye rien.
Ouais, ouais.
Donc évidemment ensuite quand je cherche un éditeur c'est plus facile. Donc je vais voir un éditeur, je lui dis voilà j'ai un imprimeur, tout ça, et donc il me dit bah ok c'est parti. Donc je prépare la sortie de ce livre, le manuel de la photo ratée. Et donc là, je suis, j'habite à Bastille dans un tout petit appart. Je suis célibataire, j'ai plus de boulot.
La vie d'artiste.
Une phase un peu de transition. En même temps, je me sens très libre. Je suis plutôt content de moi. Et il se passe que j'avais fait une demande d'atelier de la ville de Paris pour la Cité des Arts, qui se trouve en face de l'île Saint-Louis. Et accessoirement, donc j'avais fait ce travail pour essayer de publier mon manuel de la photo ratée.
Ouais.
Et genre la même semaine, donc je trouve un éditeur, l'imprimeur, et je suis pris à la Cité des Arts dans un atelier de la ville de Paris. Wow. Avec vue sur la Seine.
Trop bien, le rêve.
40 mètres carrés que je payais 300 balles. Quoi.
Ah ouais, donc là, je me dis, t'as vraiment une bonne étoile. Là,
j'ai peut-être bien fait. Ouais. J'ai peut-être bien fait de suivre mon instinct. Et donc, je m'installe dans cet atelier et je me retrouve à faire l'impression de mon bouquin. Donc, okay. Je suis chez l'imprimeur, à Comélie, on va citer son nom, Yannick Delaunay, je crois. Bon. Bref, donc je suis chez l'imprimeur, donc en banlieue, vraiment grosse imprimerie, hein. Avec une machine 4 couleurs, truc énorme. Et ils sont en train d'imprimer mes photos ratées. Et moi, je suis là, donc ça prend... je crois qu'il y avait 2-3 jours d'impression quand même, hein, ouais. 2 jours. Donc je suis là, à côté des machines, en train de caler donc, les couleurs, tu vois, pour que ça soit bien contrasté, machin. Et il y a une autre machine à côté, en train d'imprimer un magazine. Et c'était le Citizen K à l'époque, qui imprimait une couve avec Nick Knight.
Wow.
Parce qu'à l'époque, il bossait avec Nick Knight. C'était la bonne période du Citizen K. Okay. Et donc, je regarde ça de loin et tout ça. Et donc, c'était un garçon qu'on peut nommer, qui s'appelle Alex Gauthier, qui était le DA du Citizen à l'époque. Et comme on passe du temps ensemble dans cette imprimerie, bah, y a des moments, tu vois, des pauses, quoi. On prend des cafés, on discute, machin. Et je lui raconte l'histoire du manuel de la photo ratée, tu vois. Et lui, il trouve ça. Il est un peu épaté, tu vois. Il dit putain, l'étudiant, il sort de l'école, il trouve un imprimeur, il sort son bouquin. Ouais, il était là, genre, un peu bluffé. Et donc, on sympathise, et puis plus de... Enfin, tu vois, on se rappelle pas tout de suite, mais deux jours plus tard, le mec m'appelle, il me dit, écoute, notre DA associé s'en va, est-ce que tu veux rejoindre notre magazine ? Je dis, mais moi, la mode, tout ça, j'y connais rien, quoi. C'est vrai, j'y connaissais rien. C'était pas du tout mon délire, quoi. Mais en même temps, je me dis, tu vois, puis c'était bien payé et tout, quoi. Là, je me dis, vas-y... On essaye, quoi. Mm. Et donc, je me retrouve du jour au lendemain DA associé du Citizen K.
Ok.
C'est incroyable.
Donc, du coup, je suis transposé dans un monde tout très, nouveau, très différent. Avec Capoff, Monica Pilozio, Benoît Béthune. Qui c'est qu'il y avait d'autres ? Et... Alors, une ambiance, alors c'était un âge d'or du magazine, ils avaient des tunnels de pub, ouais. Je crois qu'il y avait 40 pages de pub à l'époque, toutes les marques italiennes et tout ça, donc il y avait des gros moyens.
Des beaux budgets, ouais.
Et donc, je me retrouve dans cet environnement, je découvre un monde que je connais pas, et franchement, je m'éclate.
Ouais.
Je découvre des personnages, des gens improbables, des comportements... Totalement. Enfin, je me dis, mais je suis où, quoi? Franchement, j'étais dans le rationnel. J'étais dans un monde rationnel. Je rentre dans le monde de l'irrationnel, mais complètement.
Ouais.
Et donc, j'ai plein de scènes que je vais pas raconter là, mais on est dans le surréalisme pur. Et moi, ça m'inspire énormément. Je me dis, mais c'est génial. Ces gens sont perchés, mais j'adore. J'adore ce monde, quoi, vraiment. Et donc, Alex, donc on s'entend super bien. Et moi, j'arrivais jusque-là de ma province. J'avais bossé dans un atelier de graphisme institutionnel. J'avais vécu le confort bourgeois, la vie de couple, les dimanches en famille, machin. Mais je connaissais pas la night, par exemple, ou très peu, en tout cas pas à Paris. Et Alex, à l'époque, il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées. Et c'était notamment le Baron, la fameuse période du Baron. Alors on a fait il m'a emmené au Pulp, au Rex, des trucs comme ça, et puis à un moment donné il me dit, ah, faut que tu découvres le Baron. Donc il m'emmène au Baron et là,
et là je me dis,
ah ok, d'accord, okay, d'accord,
ok, c'est autre chose.
Donc là je passe, ouais, dans la quatrième dimension, on peut le dire. C'est-à-dire que donc je travaille, on travaille au Citizen K, donc tous les jours, hein, c'est quand même des magazines qui font 400 pages à l'époque, très très épais, il y a beaucoup à maqueter, tout ça. Tous les midis on est au resto, tous les soirs on est au resto, et quasiment tous les soirs, en tout cas tous les deux soirs on va dire, on est au Baron. Donc là c'est en gros ma vie, c'est ça. C'est-à-dire, je bosse dans le magazine et tous les deux jours à peu près, je suis en boîte de nuit à danser et donc à fréquenter. Bah,
ouais, parce qu'il faut recontextualiser et dire que le Baron à cette époque-là, c'est genre the place to be, comme on dit. Et genre, les artistes.
Et il y a vraiment tout le monde. C'est-à-dire, voilà, qu'on croise Björk, on croise DiCaprio, on croise.
Et c'était la porte la plus dure de Paris.
Les habitués, c'est. Le Gilles Lelouch, Canet, tous ces gens-là. Enfin, donc on est tout le temps dans cette et moi je me retrouve un peu
propulsé.
Bah, en tout cas, comme faisant partie d'une manière ou d'une autre un peu de ce monde, par le biais de la presse de mode, puisque du coup je fais beaucoup de shoots, beaucoup de portraits aussi. Il y a beaucoup de carrières d'acteurs qui sont passés par des portraits, notamment au Citizen à l'époque. On fait des shoots avec... moi, je me retrouve à travailler avec Eva Herzigova, qui est à côté de moi, en train de maqueter des trucs. On travaille avec des artistes, des très, très gros artistes, comme par exemple Matt Colichaud, qui faisait partie de Young British Artists, et tout ça. Enfin, on passe dans un truc... avant, moi, je faisais des maquettes pour le Centre Pompidou, quoi, tu vois. Et là, tout à coup, je suis avec Eva Herzigova, qui me dit ah non mais plutôt ça machin, etc. Donc ok, rigolo. Et du coup bah ça, je suis quand même toujours un peu artiste quelque part, même si je suis très occupé, mais tout ça m'inspire énormément. Et donc à un moment donné je commence à prendre des notes sur des bouts de papier, des post-it, tout ça, des trucs qui me font marrer. Et à un moment donné, comme ça, je fais un deuxième bouquin qui s'appelle Récréation. Ah oui, puis j'ai aussi des potes, des anciens potes à moi. On avait créé un groupe d'artistes Bellevue, un peu inspiré, on va dire, de Jacasse, ou en tout cas, qui était... comment dire ? On était plutôt dans la contre-performance. Plutôt que dans la performance. Mais par exemple, on faisait du skate sans skate, on prenait des pauses par terre, ou on faisait comme si on était tombé, mais en fait, on prenait la pause, tu vois, comme si on était tombé.
Tu reviens de tes actions, ton amour de la cascade.
On a fait un petit film court, hein, mais un film d'action timide. Donc, on fait des bastons, mais on n'ose pas vraiment se taper parce que ça fait mal quand même, tu vois. Donc, c'était franchement débile, mais ça nous a amené un peu de presse. Et j'étais dans ce mood qui était... Le mood de l'époque, je dirais, autour de la notion d'idiotie. Mm. Un peu de régression, de, voilà, de trucs... Donc, c'est l'époque aussi du morning live, des choses comme ça.
Très caricatural.
Ouais, puis ce truc hein, autour un peu de la bêtise, que aussi la bêtise de notre société, tu vois. Et moi, donc, j'avais fait ce projet avec mes potes, comme ça. Puis en fait, les deux potes sont partis bosser et tout ça. Donc, le groupe a splitté. Mais j'ai envie de prolonger ça. Et j'ai fait un deuxième projet de livre qui s'appelle Récréation, où là, j'ai vraiment mis tous les trucs les plus... Franchement, le concept du livre, les trucs les plus débiles possibles dans un livre.
Okay.
Vraiment, tu vois,
donc, c'est l'idée. Donc, il y a quoi dedans ?
Hein ?
Du coup, il y a quoi dedans ?
Ben, y a des jeux de mots, mais pourris, des collages, par exemple. J'écrivais Carole, et puis je mettais une photo de bouquet.
Ok.
Ça faisait Carole bouquet. Ah, tu vois le niveau ?
Ouais, ouais.
Et en gros, quand tu regardais le bouquin... C'était là, genre, mais c'est consternant.
Mm.
Tu vois, et donc je fais ce livre. Alors, mon éditeur à l'époque c'était Aldante, et il s'avère que Léo Cher avait repris Aldante. Et comme le manuel de la photo ratée avait bien marché, je crois qu'on a vendu autour de 20 000 exemplaires,
wow.
Ce qui est pas mal hein, pour un premier livre. Mm. Léo Cher, du coup, dit ouais, vas-y, on fait ce livre. Alors, il y avait plein de problèmes de droits d'auteur. Des fois, il y avait par exemple un portrait de Johnny Hallyday avec des dents noires comme ça. Tu vois, j'avais fait comme s'il avait, tu vois, là, les dents comme ça.
Ouais, ouais.
C'est, franchement, c'était pathétique. Mais ça me faisait tellement rire. Moi, ça me faisait marrer de voir la tête de la personne qui regarde le livre et qui fait genre, mais c'est nul. Mmh. Je dis, ouais, c'est nul, c'est cool. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Et Léo Cher, donc l'éditeur, il savait que ça avait fait 20 000 exemplaires. Mon éditeur de départ avait refusé le projet. Il dit ouais, je comprends pas. Et Léo Cher, lui, il dit oh non, c'est génial, vraiment. Alors vraiment, Léo Cher a été vraiment quelqu'un d'important vraiment dans mon parcours artistique parce que vraiment le Léo comprend
le
mon délire. Il comprend mon délire. Alors c'est quand même quelqu'un qui a à l'époque il a 65 ans.
Hein. Ok.
Voilà, c'est quelqu'un qui a participé à la création de Canal+, d'M6, qui était proche de Gilles Deleuze, de Godard, enfin tu vois, donc on est sur du sérieux.
Mais il comprend le délire.
Et le mec, vraiment, mais tu vois, qui ressemble à... C'est Aldo, c'est... Ouais, c'est un patron, tu vois, le patron de la mafia, quoi, tu vois. Et le mec, il me dit, non, mais c'est génial, t'es un génie, quoi.
Mm-hmm.
Là, je suis genre, bah ok, ça roule. Et donc, il me dit, bah on y va, on sort le bouquin. Donc, on sort Récréation, donc c'est en 2006.
Ouais.
Et vraiment, moi, je me dis, mais personne va, tu vois, ça va pas, tout le monde va s'en foutre, quoi. Ça va jamais marcher, quoi. Et en fait, ça, les médias, ça fait un buzz pas possible. Je fais une vitrine de Colette avec Daft Punk de l'autre côté. On fait énormément de presse. Vraiment, c'est un délire. C'est un gros délire.
Mais
et donc Léo
prend.
Me dit tiens bah c'est marrant tout ça et je me souviens très bien on était au Flore parce que je bossais au Citizen et que c'était à côté, pas parce que j'allais au Flore particulièrement, mais il s'avère que voilà c'était au Flore et donc j'étais au Flore et Léo était juste à côté de moi et donc on parlait du bouquin et il me dit bon bah maintenant tu fais un roman.
Wow.
What? Mais comme ça, hein. Comme si je te disais, bon, bah, maintenant, tu fais un opéra, quoi. Mm-hmm. Donc, moi, quand même, fils de prof de lettres.
Ouais, bah oui.
Ayant toujours eu une relation, quand même, un peu particulière avec la littérature, du coup, pendant longtemps, où je me méfiais, j'étais pas à l'aise, je sentais que c'était pas mon territoire, tu vois. Mm-hmm. Et là, il me dit, bon, maintenant, t'écris un roman. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je mette dans un roman? Je sais pas écrire, quoi. Là, j'ai fait un bouquin avec des jeux de mots pourris, des blagues de carambar. Je me dis, comment je vais m'en sortir? Et puis, en même temps, il y croit tellement. C'est ça qui est intéressant dans le dispositif, c'est que tu es en face de quelqu'un qui croit tellement en toi que ça te donne des ailes, quoi. Mm. Quand tu as en face de toi quelqu'un comme ça, qui est hyper respecté, respectable, qui te dit, t'es un génie, bah, t'y crois.
Ouais.
Ouais, mais si. Que tu le vois dans ses yeux que lui croit en toi, il pense que t'es extraordinaire.
Moi, je suis pas convaincue, mais peut-être.
Non, mais en tout cas, ça crée quelque chose chez toi.
Ça me gargarise.
Qui est stimulant, quoi. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui va te dire je suis pas sûr, faut voir. Moi, c'est la plupart du temps, c'est ce que j'entends.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Tu vois, quand tu montes un projet, la plupart du temps, les gens ils disent ouais.
Ouais,
pas sûr, hein. Ouais, la plupart sûr. Du temps c'est ça. Donc quand t'as un mec comme ça qui a créé Canal, qui est pote avec Godard et Deleuze, qui te dit t'es un génie, ok. Et donc je me suis dit, puisque Récréation a eu pas mal de médias, je vais prendre en fait plein de trucs comme ça. En fait, je vais prendre tout ce qui moi me fait marrer, tout ce qui me fait marrer, et je vais le mettre dans un bouquin.
Okay.
Je vais inventer une histoire un peu prétexte. En l'occurrence, là, c'était dans une boîte de nuit, un patron de boîte de nuit qui s'appelle Roger Pichou, qui se fait assassiner par deux ours roses de grande taille. Tu vois, ça commence comme ça.
Okay.
On reste dans l'absurde quand même.
Voilà. Et donc, ça commence comme ça. Donc, c'est je m'appelle Jeanne Masse et je suis videur de boîte de nuit au Coconut Café. En ce moment, j'adore les pigeons. Enfin, vraiment le truc absurde. Je fais tout le texte comme ça, je donne à Léo. On fait quelques petites retouches. On sort le bouquin et en fait...
Carton.
Une presse de malade. C'est-à-dire, j'ai jamais refait ça depuis. Hein, j'ai jamais eu ça. J'ai fait la couve du cahier livre de Libé avec... La couve du cahier avec ma tronche.
Ouais.
Cahier livre.
Ouais, c'est dingue.
Ouais, tu deviens un auteur, un vrai auteur.
Voilà, je suis sur le prix du Figaro, le prix de Flore, mec BD à l'époque dit c'est génial, Florian Zeller, David Fuenquinos, enfin la presse est dithyrambique.
Mais toi, tu le prends comment ça, justement?
Je me dis, ok les gars.
Ah ouais, toi, tout ce qui vient, tu prends.
Non, mais je suis invité sur tous les plateaux télé, c'est un gros délire, quoi, tu vois. Alors que moi, j'ai écrit un. Ma psychologie au moment où je fais ce texte, c'est je mets tous les trucs qui me font marrer. Personne ne va acheter ce livre.
Mais tu prends quand même, forcément, tu prends le processus d'écriture un peu au sérieux, non, quand même?
Attends. Moi, tout ce que je fais, je le fais sérieusement.
Voilà, j'aime qu'on
tout
remette
ce que je
un
fais,
peu
je
ce
le
contexte-là.
Fais sérieusement.
Parce que là, quand on t'entend parler, on a l'impression que c'est un espèce de gros nuage.
Pour être très clair, je pars toujours en général d'un concept...
D'une idée folle,
Ensuite, même si c'est mettre le plus de choses débiles dans un livre, il faut que ces choses débiles fonctionnent.
Merci.
Donc en général, par exemple,
quand même,
je travaillais encore au Citizen K à l'époque je testais les phrases au bureau.
Ouais.
Tu vois? Pour voir celles qui fonctionnaient.
Mm-mm.
Donc effectivement, il y avait très peu de place pour la gratuité en vérité. Dans tout ça.
Oui, mais entre tester des punchlines sur des gens et écrire un roman qui se tient de la première à la dernière page, c'est pas la même vibe. Hein.
On est d'accord.
Ok.
On est d'accord. Après, okay. Ça a marché une fois. Hein.
Ok.
Peut-être que c'était opportun, peut-être que ça correspondait à l'époque.
À l'époque, bien sûr.
Voilà, bon. Mais en tout cas, effectivement, à la sortie du livre, c'est un gros délire. Média. Moi, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Et donc, avec Léo Cher, en plus... qui est quelqu'un de très, très connecté. Moi, je me retrouve... Alors, j'étais baron, mais du coup, je me retrouve aussi très souvent au Matisse, qui est vraiment le QG des people, hein. Donc je dîne avec Thierry Ardisson, Ariel Wiesman, il y a aussi, tu peux trouver Emmanuel Carrère, Edouard Baird, Nicole Garcia, et j'en passe. Et donc je dîne, tu vois, avec des gens comme ça, et c'est sérieux. Et je me retrouve, par exemple, alors une scène surréaliste, je te donne un exemple. On est donc à table, il y a Léo Cher, Emmanuel Carrère, auteur que j'admire, tu vois, enfin, qui est pour moi ce qu'on appelle un écrivain. Et là, il y a Léo qui me dit à Jean-Jacques Schoule qui va nous rejoindre. Jean-Jacques Schoule, c'est un prix Goncourt, hein, qui arrive avec une amie, je crois. Et là, il dit, on discute, tout ça. Puis à un moment, Léo dit, oui, tiens, c'est Thomas Lélu, tu sais, dont je t'ai parlé. Et là, je vois Jean-Jacques Schoule dire, Thomas Lélu, ah mais vous savez, on a votre livre, Récréation, Jeanne Masse, ça nous fait tellement rire avec Ingrid. Donc Ingrid, c'est Ingrid Cavan, c'est l'ex-femme de Fassbinder, tu vois.
Okay.
Ça nous fait tellement rire. Et là, il me dit, vous savez, si Jean Eustache était encore vivant, il aura adoré votre travail. Et là, tu te dis, mais arrêtez les gars.
C'est le rêve éveillé, là.
Ah mais je me pince, je me dis, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Voilà. Donc ça, c'est une période assez incroyable.
Là, t'es sur un nuage à cette époque-là.
Là, je suis un peu même... un peu, ouais, je... Je sais plus trop ce qui se passe, en vrai.
Parce qu'on est loin du petit... de Rennes, là, pour le coup, et des...
Oui, là, on est très... là, je change complètement de paradigme. Et c'est très jubilatoire. Hein. Ça m'amuse jusqu'à un certain point, c'est-à-dire, à un moment, il y a un surdosage. C'est-à-dire, il y a trop de people, il y a trop de soirées, il y a trop de... Et...
Tu te perds un peu ?
Je sais pas si je me perds, mais... Alors déjà, on ressort un livre assez rapidement, donc c'est Les Aventures de Jack Daniel, qui est un flop. Mm-hmm. Donc là, déjà, ça retombe un peu. Et puis, il s'avère ensuite que je passe chez Flammarion, donc sachant que Léo Cher, le groupe, est distribué par Flammarion, donc là, je passe chez Flammarion... change d'éditeur, d'ailleurs Léo le prend très très mal, et je fais un livre chez Flammarion, je fais une rentrée littéraire Flammarion, donc on est en 2010, et là c'est la douche froide, c'est-à-dire je me fais assassiner par la presse, ça ne marche pas, genre le soufflet retombe d'un coup.
Comment tu le vis, toi, du coup ? Puisque là, jusque-là, ça a été une ligne droite de succès après succès, tu vois. Donc, le premier échec, il doit être dur.
Alors, c'est pas un premier échec, parce que d'une certaine manière, quand je parlais des Beaux-Arts, par exemple, pour moi, c'était une forme d'échec.
Je veux dire, là, t'es dans l'intelligentsia parisienne, t'es avec comme tu disais, avec des célébrités, et puis... Enfin, le mur, il doit être quand même difficile.
Oui, alors... Je suis quand même, j'ai quand même dans ma manière de travailler, dans mon approche autour de l'idiotie, autour de la régression, tout ça, cette idée quand même de ne pas me prendre trop au sérieux, que tout ça est un jeu. J'ai un rapport même avec moi à la célébrité où je suis toujours une distance par rapport à ça. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fond, quoi. Je dis pas que les célébrités, il n'y a pas de fond, mais je veux dire, je m'intéresse plus au texte, je m'intéresse plus à l'œuvre qu'aux personnes. Et du coup, je pense que même quand j'ai été très exposé comme ça, j'étais à la fois toujours là et toujours un petit peu quand même en marge, toujours un petit peu à côté, toujours un petit peu ce qu'on appelle un schpounz, tu vois, un gars qui vient de la campagne, qui déboule, quoi. Je me suis jamais complètement intégré, tu vois, et c'est d'une certaine manière quelque chose qui m'a protégé.
Ouais, ça t'a sauvé, ouais.
Parce que quand je vois l'évolution de ce monde dernièrement, je me dis, ah bah c'était peut-être pas plus mal que je sois pas complètement rentré dans le moule. Donc
qu'est-ce que tu entends par là?
Bah le monde a changé.
Ouais.
Ah bah oui.
Non mais je suis pas sûr de comprendre.
Comment résumer ? Il y a beaucoup de gens qui sont passés de la gauche à l'extrême droite, on va dire. Il y a beaucoup d'artistes, on a découvert que, bah, en fait, c'était des connards.
Ok, dans ce sens-là, ok.
Bah, le monde a changé en quelques années. Il s'avère que moi, j'ai quand même me suis retrouvé dans un environnement où il y avait beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des soucis.
Des gros soucis.
Et je pense que c'est un environnement, quand en plus, t'es un peu... quand tu viens pas de ce monde-là, tu peux te faire aussi... tu peux complètement te faire avoir et utiliser les mêmes codes que les autres parce que tu penses que c'est comme ça que ça marche.
Bien sûr.
Et je pense que j'aurais pu me perdre là-dedans. Donc finalement, cet échec, il m'a peut-être préservé. Et il se passe, c'est vrai que suite à ça, en plus, je me sépare de ma compagne, qui accessoirement est la mère aussi de ma fille, à peu près à la même période.
T'es déjà papa, du coup, quand tu sors chez Flammarion.
À la sortie du livre chez Flammarion, qui, on va dire, est le blackout, je suis déjà papa. Et à l'époque, elle a 2 ans, donc elle est toute petite. Et du coup, je suis face un petit peu à une situation où il faut que je me responsabilise, où il faut que je me concentre sur moi, que je construise quelque chose peut-être qui soit peut-être moins performatif et peut-être plus
pragmatique.
Je pense qu'à l'époque j'étais beaucoup dans l'intuition, je me laissais porter et tout ça, et j'avais justement, parce que tu disais, est-ce que tu avais un projet de carrière, un plan de carrière, tout ça, j'en avais pas.
Ouais.
Mais c'est un peu flotté, tu vois. Et là, tout à coup, tu te retrouves papa, tu te retrouves face à l'échec de tout ça qui s'est construit de manière un peu organique. Là, tout à coup, tu te dis, alors qu'est-ce que je veux vraiment faire, en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment construire? Sur quoi je vais faire mes prochaines années?
Tu te recentres, du coup.
Exactement. Donc, il y a une grosse période de recentrage. Grosse période, c'est vrai. Où j'arrête d'écrire.
Ouais.
Je ne publie plus de romans, plus rien. Je ressors un livre quelques années plus tard chez Léo Cher à nouveau, qui s'appelle Les Tribulations d'Arthur Shaw, qui est à nouveau un peu un flop. Alors, on ne va pas se mentir.
Mais tu as quand même pris goût à l'écriture, du coup, parce que pour y être retourné autant de fois,
Peut-être que j'y suis retourné parce que justement beaucoup de personnes me disaient, mais faut que tu ressortes un bouquin quand même, nanana, tu vois. Donc du coup, voilà. Donc c'est, typiquement, j'ai fait l'émission d'Augustin Trapenard à l'époque.
Ouais.
Et c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit, ça faisait 2006, ouais, ça devait faire 6 ans quand même, hein, je crois, que j'avais pas écrit de bouquin. Il dit, mais pourquoi t'as pas écrit de livre et tout ça? Donc. C'était ça la réponse. C'était que non, j'étais dans une période de recentrage, de reconstruction, de projection, de ce que je voulais vraiment faire, tout ça. Ça a pris un petit peu de temps, et puis j'essaye d'accélérer un peu le truc.
Non, vas-y, non, mais on a tout le temps, t'inquiète.
Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est...
Comment tu te retrouves déjà? C'est quoi le déclic qui dit, ok, je vais aller dans cette direction-là, du coup? Est-ce que tu l'as, ou ça reste aussi organique, en fait?
J'essaie de te retrouver un déclic, mais il se passe, c'est vrai que je me mets un petit peu en marge, je bosse dans la pub, je fais pas mal de boulots différents, je bosse une boîte de prod aussi de vidéo, où je suis directeur du développement, donc je suis un petit peu dans l'ombre, tu vois, mais évidemment je continue à bricoler quand même, à faire des trucs. Il faut savoir aussi qu'en plus, toute la partie art contemporain, c'est vrai que ça n'a pas décollé à un moment donné. J'ai pas mal d'expos, hein, assez jeune.
Okay.
J'ai fait des FIAC, à l'époque c'était la FIAC. J'ai exposé dans des grosses galeries, dans des musées, des institutions, tout ça. Puis ça n'a pas, pas pris le step au-dessus, comme certains, comme pas mal de potes à moi d'ailleurs. Je pense à des gens comme Cyprien Gaillard, par exemple, ou Camille Enrault, tu vois, c'est des gens que j'ai fréquentés à un moment donné, qui ont des carrières dans l'art qui sont impressionnantes. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, moi je suis un petit peu... je me dis, qu'est-ce qui a merdé, quoi? Et du coup, je bosse, je gagne ma vie, je m'occupe de ma fille, je fais beaucoup de sport... J'ai des histoires avec des femmes. une vie quoi, une vie normale, tu vois. Et d'ailleurs, je souffre pas de pas être comment dire exposé. Au contraire,
ouais.
C'est agréable. Voilà, de j'aime bien. Les gens disent ah ben qu'est-ce qu'il fait Thomas Lenu, je sais pas trop. Bon, moi ça me va. Et non, vraiment, j'adore. Vraiment, c'est pas. C'est en fait c'est assez agréable. Hein. Et je me dis, bon, en fait, on s'en fout, quoi, d'être dans la presse, tout ça. C'est bien mieux d'être tranquille chez soi, de s'occuper de sa fille, de faire des bons petits plats. En fait, c'est beaucoup mieux.
C'est vrai que t'es très proche de ta fille, t'as cette relation.
Ah, je suis très famille, moi. Mmh. Ouais, je suis très famille. En général. Ouais. Okay. Je crois, c'est important.
Moi, je connais que la relation avec ta fille, du coup, mais je sais
que... Ouais, mais pour moi, la famille, c'est la base.
On est d'accord.
Et donc, d'ailleurs, je vais souvent chez mes parents qui habitent à côté de Rennes. Je m'occupe du jardin. franchement, ouais, non. Et ça me va. Et puis, donc, un déclic, je dirais, c'est à un moment donné, je bosse dans une agence de pub. Donc, je suis DA, quoi. Je fais des maquettes, tout ça. Et puis, il y a beaucoup de magazines à côté de moi. Et je pense que c'est un moment où j'ai commencé à mettre des objets sur des pages de magazines. Je les photographiais et donc c'est le début d'Instagram.
D'accord.
Et c'est un ami à moi, alors ça aussi c'est important, que je cite Marc Alizart, qui est philosophe. Et je suis à un moment donné à un défilé de Jean-Charles de Castelbajac, qui est un ami que j'aime beaucoup. Et on est au défilé et à l'époque il y avait des filtres, tu sais. Alors c'était pas Instagram, je sais plus, filtre photo, tu vois, ou... Je sais plus.
Si, c'était les débuts d'Instagram, ouais, ça, les Sepia.
Non, il y avait pas, c'était pas encore Instagram, mais il y avait avec ton téléphone, tu pouvais faire des filtres, ou alors peut-être c'était.
C'était
quoi, Twitter rapport. Déjà, alors je sais pas.
Non, je crois pas.
Sur Insta, il y avait
le
premier filtre. Ouais,
moi, j'avais pas Insta, parce que pour dire. Et là, donc, j'étais en train de jouer avec des filtres qui étaient affreux, tout ça. Et Marc me dit, tiens, tu devrais t'intéresser à Instagram. Vraiment, il me dit ça comme ça au moment du défilé. Alors je dis, bah ok, je vais regarder. Et donc, je découvre, je crée mon compte. Et donc, je suis en train de travailler. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, certains midis, je n'avais pas le temps de faire une pause. Donc, j'avais des magazines et puis j'avais de la bouffe. Mmh. Et l'ennui, sans doute, a fait que j'ai commencé à prendre, je sais pas quoi, une fraise et à la mettre sur un magazine. Et j'ai fait des photos comme ça et j'ai commencé à les poster sur Insta. Et il s'avère que ça a commencé à circuler, à commencer à avoir des likes, des gens qui ripostent et tout. Et donc j'ai commencé à rentrer dans cette dialectique. Et puis il y a de plus en plus de personnes qui ont suivi ce que je faisais. Et puis si on en arrive à ce que je fais aujourd'hui, c'est vrai que je dirais. Mes premières pièces, en fait, dans les expos en art, c'était en fait tiré de Récréation, donc ce livre de 2003, où je faisais des jeux de mots. Donc il y avait par exemple LVMHO au cul à l'époque, donc un clin d'œil à Duchamp.
Bernard Arnault appréciera.
Mais il faut savoir que ça sort, mais il avait vachement apprécié. Il avait beaucoup apprécié. À l'époque, il y en avait eu trois. Donc Claude Béat en avait acheté un. Je sais plus, et je sais que Christophe Girard avait posé devant, enfin Christian Lacroix aussi, enfin et donc c'est écrit à la bombe comme ça sur des grandes surfaces laquées.
Ouais.
Et puis ça j'en ai montré pas mal au Galeries Lafayette, dans différentes foires et tout. Et puis à un moment donné, quand j'ai fait moins d'expos, que j'ai fait moins de trucs, je me suis mis un peu comme ça en stand by.
Ouais.
Je l'ai mis un petit peu de côté, on va dire. Et puis sur Insta, après avoir fait beaucoup de choses avec des objets posés comme ça, il y a eu un moment donné, ça tournait un petit peu en rond.
Okay.
Tu vois, j'ai l'impression de me répéter. Alors j'ai fait des fausses pubs aussi. Donc ça
a bien tourné, les fausses pubs.
Ça a pas mal tourné aussi. J'ai fait ce que j'ai appelé les philo-selfies, où je remplaçais
des
selfies,
livres,
hein. Des bouquins, des téléphones par des livres. Mm. J'ai fait pas mal de trucs comme ça, c'est souvent des séries. Et puis à un moment donné, c'est vrai que j'ai l'impression de tourner en rond.
Ouais.
Et à un moment, j'ai observé qu'il y avait quand même beaucoup de choses à droite à gauche avec des phrases écrites, dont certaines choses parfois à la bombe de peinture sur des toiles. Tout ça. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble à ce que je faisais il y a 20 ans.
Mmh.
Je me suis dit, ok, je reprends le truc. Donc je suis reparti sur mes basiques,
ouais.
Ma Et donc j'ai commencé à écrire. Alors, et là je me suis dit bon bah feutre ou stylo bille. Je suis parti sur le stylo bille. J'ai vu que ça réagissait beaucoup sur le stylo bille.
Ouais.
Et donc j'ai poursuivi le truc.
Ouais, c'est vrai que là on passe difficilement aujourd'hui une journée sur Instagram sans voir un de tes.
Ah mais c'est délirant. C'est délirant.
C'est rigolo.
Je suis le premier à trouver ça génial et à être surpris du succès du truc parce que jamais.
Ouais, tu t'attendais pas à ça quand t'as commencé le truc. Hein.
Non, pas à ce point. Pas à ce point.
Est-ce que.
Non, aujourd'hui, tous les jours, je vois des noms. Tu vois, il y a quand même Diane Keaton, quoi. Diane Keaton.
Mm. Ouais.
Khloé Kardashian aussi.
Ouais.
Non. Bien sûr. Ouais. Non, mais plusieurs fois. Mm. Je bosse avec Push, là. On voit des trucs.
Push.
Il y a eu. Snoop Dogg, pas mal de fois. mais tu vois, des Drew Barrymore. Tu vois, quand t'as Drew Barrymore, tu fais la jambe. Mais...
Ouais, ouais, bien
c'est
sûr.
Génial, quoi. C'est incroyable. Et évidemment, quand à l'époque, je faisais des expos dans le Marais, à Paris, il n'y avait pas Instagram. Il y avait
ouais, c'est des choses, c'est
les gens
pas
de l'art
pareil.
Qui le voyaient et trois autres personnes qui s'intéressent à ton travail. Là, tout à coup, ça, c'est incroyable.
Bah, peut-être que ton travail en tant qu'artiste, il est plus populaire, mais pop dans le sens pas noble du terme, mais genre sans être une critique qu'un truc d'art, en fait, tu vois. Et pour moi, les grands artistes sont ceux qui arrivent à faire le pas à ce que les gens, on va dire normaux, lambda, apprécient. C'est que tu touches en vrai le monde. Et pas juste une micro-communauté qui se regarde le cul tous les jours.
Tout à fait. Et il y a aussi quand même quelque chose qui a changé dans le modus operandi, c'est-à-dire qu'à l'époque, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'étais quand même à une époque plus, on va dire, punk, dans la provoque, dans l'envie de casser les codes, dans une forme de régression, tu vois. Donc il y a un côté performatif, c'est-à-dire que je voulais en être... d'une certaine manière. Je voulais, tu vois, je voulais qu'on me remarque, je voulais que c'est mon côté cascadeur, quoi.
On en revient.
Qui revient. Et puis là, c'est vrai que je pense que c'est des moments de vie. C'est-à-dire qu'après, je suis passé par effectivement ce moment d'échec, peut-être de dépression. Tout à coup, je me retrouve à être papa, à devoir construire quelque chose.
Aussi.
Et c'est vrai que l'énergie n'est pas la même. Et les messages aujourd'hui que je poste sur Insta, c'est pas des messages de provocation, c'est pas des messages pour me faire remarquer. Je pense qu'aujourd'hui il y a une volonté de partage, une volonté de comment dire
unir plus,
de prosélytisme, de comment dire de oui c'est plus c'est plus tourné vers l'autre, tu vois ce que je veux dire. C'est moins tourné vers soi, quoi. Et je pense que ça contribue aussi au succès de ça.
C'est quoi ton process d'écriture pour ces postes là du coup?
Bon,
ton process d'écriture, ou est-ce que c'est...
Alors ça, c'est toujours le même depuis des années, c'est-à-dire je note des choses tout le temps en permanence, parfois je les garde telles quelles, des fois je les retravaille. Après, il y a des choses aussi que j'entends, il y a des choses que des fois que je récupère, parfois des phrases dans des films, dans des manifs aussi. Il y a des.
C'est vrai que dans les manifs, les mecs sont bien créatifs sur les punchlines.
C'est formidable. Après les manifs, moi j'adore. Après les manifs, je fais le tour sur les murs de toutes les phrases que je vois à droite à gauche. Il y en a des super, quoi. Donc en général, donc je note. Il y a un processus d'abord de j'en note plein, et puis ensuite moi ce que je veux, c'est rester quand même pertinent par rapport à un contexte, tu vois, c'est-à-dire
une époque.
En fonction un peu de soit de tu vois des phénomènes de société ou de politique.
Ouais, il y a un truc assez sociétal dans ton art.
Complètement. C'est-à-dire, je veux pas que ce soit gratuit. J'essaie quand même que ça reste pertinent ou que ça fasse écho à quelque chose ou que les voilà. Et ça, c'est essentiel. Et aussi, je l'ai construit comme des séquences. Il y en a toujours 5 ou plus d'ailleurs. Mais c'est-à-dire, il y a quand même un peu un début, une fin, tu vois. C'est-à-dire, en général, on démarre avec une phrase. Ensuite, il y a une progression. Il y a un climax. Et puis après, il y a une chute. Et donc, c'est comme des petites séquences, c'est comme des petites histoires. Mmh. Donc ça aussi, c'est important. Et voilà, et donc en gros, bah voilà, je les prépare à l'avance. En général, j'en ai un petit lot, une vingtaine, une trentaine. Et puis le jour J, j'essaye de, alors là, à l'instinct, de me dire ça, c'est plus pertinent, tout ça. Et j'ai deux comptes. Alors ça, c'est mon petit secret, ma petite mayonnaise. C'est j'ai un deuxième compte où il y a beaucoup moins d'abonnés, où je teste les phrases sur un nombre d'abonnés beaucoup plus restreint. Ça me permet de sentir si telle ou telle phrase va marcher ou pas.
Okay. Smart.
Voilà, c'est mon petit conseil, tuto.
Ça m'amène à une question que je vais te poser depuis le début. Est-ce que tu crois au hasard et à la chance dans la création et dans la réussite ?
Au hasard et à la chance. À la chance, oui. Au hasard, non.
Okay.
Non, le hasard, pour moi, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est un titre de livre que j'ai. Le hasard n'existe pas. Non, je crois pas.
Ton prochain livre, du
tu
coup.
Tu crois pas ?
Non, bah non, il existe déjà.
Ah, ok.
C'est déjà un livre qui existe. Mais okay. Non, pour moi, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est toi qui le crée. Et le hasard, c'est une rencontre de situations contradictoires qui créent un événement. Mais en général, tu participes à la création de cet événement.
Ouais.
T'es jamais complètement.
Je suis d'accord.
Il faut créer les situations. Il faut créer des situations de hasard.
Mmh. Non, je suis très d'accord.
Ouais. Moi, je crois au destin et qu'après, ouais. Enfin, c'est selon où tu te positionnes que tu unlocks telle aventure ou tel chemin.
Moi, je crois à la mobilité. Moi, je crois à la mobilité, c'est-à-dire que le hasard existe peut-être, mais il faut aller le chercher. Et si tu te déplaces et si tu es en mouvement, c'est-à-dire si tu es dans le changement aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une mobilité physique, mais c'est aussi le changement, c'est-à-dire même s'il y a une cohérence dans mon travail depuis le début, je dirais.
Ouais, tu as eu des moments, tu as dû te réinventer.
Moi, je suis quelqu'un, quand je parle de curiosité, je suis aussi dans le changement. C'est-à-dire j'évolue, je suis quelqu'un de curieux par rapport aux autres et je m'enrichis en fait des expériences, et je crois beaucoup à l'expérience. C'est en faisant des expériences qu'on progresse. Et du coup, c'est l'ensemble de ces expériences qui me font muter, qui me font progresser. Et c'est essentiel, ouais, en fait, exactement, dans son développement.
Génial. Bon, on va faire le petit instant promo pour Thomas.
T'as de la chance parce qu'on n'en fait jamais normalement.
Ah, on ne fait jamais de promo, vraiment. Mais bon, là, on est entre amis. Le livre qui vient de sortir, je vais le montrer. I have no idea what I'm doing out of bed.
Yes.
Ça nous arrive à tous, ça.
Tous les jours.
Tous les jours.
Je crois que oui, on partage relativement tous ce sentiment.
Voilà.
Très et, ça marche, et ça marche quasiment tous les jours. Hein.
Même en fonction de plein de mots différents,
en général, ça fonctionne quand même.
Trop bien.
Bah, génial.
Merci beaucoup d'être passé
nous voir. Merci à vous.
Merci
Thomas.
C'était un plaisir. À bientôt.
À bientôt.